VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et bon début de semaine à l'écoute de VOA Afrique. Merci de votre fidélité à nos programmes. Au micro ce matin, Nicolas Pineau et Anne Albertson à la une de notre émission.
Kinshasa renonce à tout soutien de la MONUSCO pour désarmer les FDLR.
Dans les rues de la capitale congolaise, on se préoccupe plus des prochaines élections dont le calendrier a été dévoilé par la CENI.
On a fixé la date, mais qu'on nous donne une élection purement transparente et démocratique.
Nous voulons seulement que l'on ne parle plus demain encore de problèmes de soi-disant financement et tout.
À Alger, la cinquième session des pourparlers intermaliens entre dans le vif du sujet ce lundi.
En Europe, le choc au Danemark après les attaques de ce week-end qui ont fait 2 morts à Copenhague.
Dans la deuxième partie de notre émission, 9 ans après les faits, les victimes des déchets toxiques du Probo Koala attendent toujours réparation à Abidjan.
On ne peut pas comprendre qu'une procédure régulière a été initiée devant les juridictions compétentes. Depuis 2011, ces individus ont été condamnés. Curieusement, ces individus bénéficient de leur liberté.
Ne manquez pas aussi le journal des sports. Tous les résultats des tours préliminaires de la Ligue africaine des champions et de la Coupe de la Confédération. Mais tout d'abord sur VOA Afrique, le journal.
Kinshasa renonce donc à tout soutien des casques bleus de la MONUSCO pour désarmer les FDLR. Le président congolais Joseph Kabila a fait savoir que son gouvernement mènera seul l'opération militaire. La mission onusienne avait conditionné son aide au remplacement de 2 généraux congolais impliqués dans les opérations et qu'elle accuse de violation des droits de l'homme. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais.
Je vous ai dit que le président a annoncé que la RDC renonce à l'appui des Nations Unies dans l'opération de désarmement des FDLR. C'est ce qu'il a dit. Le président a confirmé que ni lui, ni son gouvernement, ni le commandement militaire, personne n'a reçu un rapport impliquant ou incriminant ces 2 officiers. Et que partant de cette habitude que la monde prise de ne pas se concerter avec nous, mais d'annoncer des mesures qu'elle prend pour les actions qu'elle fait au Congo dans les médias, le président a annoncé que la RDC allait s'occuper seule du désarmement forcé de l'air et renoncer le plus officiellement du monde à tout appui des Nations Unies à cette opération de désarmement forcé de l'air.
Sachez aussi que les autorités de la province du Bandundu, dans l'ouest de la RDC, affirment avoir abandonné tout espoir de retrouver des survivants suite au naufrage d'une embarcation. C'était jeudi sur le fleuve Congo. Jean-Christophe Malela, conseiller en communication du gouverneur du Bandundu, Jean Kamisendu, a expliqué à l'agence France Presse qu'il ne fallait plus penser à retrouver des survivants. Les secours n'ont pour l'instant retrouvé que 9 corps sur la centaine de personnes disparues.
Nouvel attentat suicide dans le nord-est du Nigeria. Une femme kamikaze s'est fait exploser dimanche à la gare routière de Damaturu, capitale de l'état de Yobe. Selon un bilan provisoire, au moins 10 personnes sont mortes et 30 autres ont été blessées. Aucune revendication, mais Boko Haram est soupçonné d'être à l'origine de cette nouvelle attaque.
Au Niger voisin, des dizaines de personnes soupçonnées d'appartenir à Boko Haram ont été arrêtées à Zinder, dans le sud du pays, et acheminées à Niamey, la capitale, pour les besoins de l'enquête. Depuis le 6 février, les djihadistes effectue des incursions au Niger, notamment dans la zone de Diffa, à 400 km à l'est de Zinder. Mais selon toute vraisemblance, Boko Haram disposait déjà de réseaux sur place. Écoutez les explications de notre confrère Amadou Mahamadou de Zinder.
Des Nigériens pour la plupart, parce que tous les gens qu'on a eu du Boko Haram, c'est des gens qui résident à Diffa, qui sont dans la région, qui sont armés, qui sont mêlés à la population, qui ne montrent pas qu'ils sont Boko Haram, en tout cas selon les sources officielles et selon même les populations de Diffa qu'on a interrogées, qui sont venues de Diffa ici. Donc tout le monde a trouvé que beaucoup de gens, la plupart des gens de Boko Haram qui ont même attaqué Diffa, c'est des natifs de Diffa.
C'est dans ce contexte que le gouvernement nigérien a appelé à manifester demain pour dire non au terrorisme de Boko Haram et soutenir les forces armées nigériennes. Reportage à Niamey de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
L'appel à la manifestation a été lancé par le gouvernement qui veut ainsi que les populations sortent pour soutenir les forces de défense et de sécurité au front contre Boko Haram. Bazoum Mohamed, ministre des Affaires étrangères et président du parti au pouvoir.
Je m'adresse à tous les Nigériens qui pensent que c'est ça que nous avons à faire. Je vous appelle donc par conséquent à être mobilisés en vue de faire de la marche une grande réussite à la hauteur de notre volonté de ne pas céder au terrorisme.
Les partis de l'opposition ont, eux, appelé leurs militants à boycotter cette marche. Le contexte ne s'y prête pas, selon eux, avec déjà une certaine peur qui a gagné beaucoup de Nigériens après les attaques de la secte à l'est du pays. Ousseyni Salatou, porte-parole de la coalition des partis de l'opposition.
On a peur, c'est un fait. Il faut être naïf pour dire qu'on n'a pas peur. La peur appelle à la prudence. Aller marcher à l'image de ce qui se passe dans certains pays, nous estimons qu'aujourd'hui, ça ne s'est pas au Niger.
Ici à Niamey, les manifestants seront attendus par le chef de l'État devant le Parlement. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Fin du sommet hier à Conakry entre les présidents de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria, les trois pays les plus touchés par le virus Ebola. Au cours de cette réunion à huis clos, les trois leaders se sont engagés à éradiquer le virus d'ici le 15 avril, selon le communiqué final. Depuis le début de l'épidémie, plus de 9100 personnes sont mortes dans ces trois pays.
Crise en Centrafrique, Abdoulaye Mardiaye, directeur du bureau régional pour l'Afrique du PNUD, a bon espoir que la réconciliation puisse aboutir dans le pays. De retour d'une mission à Bangui, M. Diaye a déclaré à VOA Afrique que le soutien international est vital pour aider la Centrafrique à aller vers une société démocratique stable.
À Cotonou, la police a qualifié dimanche d'affaire banale l'agression récente de Lionel Agbo. Cet avocat, ancien porte-parole jusqu'en mars 2011 du président Boni Yayi, a affirmé à l'AFP avoir été agressé devant son domicile. Il avait assuré avoir reconnu son agresseur comme agent du renseignement. Le commissaire de Cotonou, Laurent Agbo, a demandé à l'intéressé de ne pas se livrer à la récupération politique.
Triste record hier au large de l'Italie. Pour la seule journée de dimanche, 2164 migrants ont été secourus entre les côtes libyennes et l'île italienne de Lampedusa. Le chaos qui règne en Libye a provoqué un afflux record d'immigrés clandestins vers l'Italie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, vague de condamnations dans le monde ce matin après l'annonce de la décapitation de 21 chrétiens égyptiens enlevés en Libye. La branche libyenne du groupe État islamique a revendiqué ces assassinats. Henri Francisque.
La police s'est limitée à dire qu'il s'agissait d'un jeune homme de 22 ans, né au Danemark, connu de la police pour plusieurs délits. Le suspect avait ouvert le feu sur des policiers près d'une gare.
Dans une vidéo diffusée dimanche, les djihadistes décapitent des hommes qu'ils présentent comme des Égyptiens de confession chrétienne copte, récemment kidnappés en Libye. Sur ces images diffusées sur Internet, les victimes portent des combinaisons oranges, semblables à celles d'autres otages exécutés ces derniers mois en Syrie par le groupe djihadiste. Au Caire, Abdel Fattah al-Sissi a convoqué d'urgence le Conseil national de la défense hier soir. Le président égyptien a affirmé l'air grave que son pays se réservait le droit de répliquer de la manière et au moment adéquat pour punir ses assassins. De son côté, la mission d'appui des Nations Unies en Libye a condamné fermement ces exécutions, évoquant un crime terroriste qui doit être dénoncé par tous les Libyens. Quant au Parlement libyen, il a décrété 3 jours de deuil et appelé la communauté internationale à se solidariser avec la Libye pour lutter contre le terrorisme.
Et nous revenons sur les attaques au Danemark ce week-end. La police a donné des précisions sur l'homme soupçonné d'avoir tué 2 personnes à Copenhague. La première ministre danoise, Helle Thorning-Schmidt, a qualifié ces attaques d'actes cyniques de terreur contre son pays. Timothée Donangmaï, selon le quotidien danois Estrat, le suspect s'appellerait Omar El Hussein.
La police s'est limitée à dire qu'il s'agissait d'un jeune homme de 22 ans, né au Danemark, connu de la police pour plusieurs délits. Le suspect avait ouvert le feu sur des policiers près d'une gare hier avant d'être abattu. Le chef des services de renseignement danois pense qu'il a été influencé par le radicalisme islamiste. Sa première attaque visait un café où se tenait une discussion sur la liberté d'expression. Parmi les participants, le caricaturiste suédois Lars Vilks, connu pour ses dessins provocateurs, notamment une caricature du prophète Mohammed en 2007. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a trouvé un parallèle entre la situation au Danemark et ce qu'il a constaté en France après les tueries de Charlie Hebdo et du magasin Kacher.
J'ai vu ce matin la même tristesse que celle que j'avais vue dans les regards terrifiés de Paris au mois de janvier. Le même effroi, la même dignité, le même recueillement et le même chagrin.
L'autre attaque de Copenhague a eu lieu tôt dimanche devant la principale synagogue de la ville. Des attaques qui ont été condamnées par les États-Unis et d'autres pays du monde, de même que par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon.
À peine rentré à Paris, le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a annoncé la profanation de plusieurs centaines de tombes au cimetière juif de Sa Réunion, dans l'est de la France. Le président François Hollande a condamné un acte antisémite et promis de punir les auteurs. C'est dans ce contexte que le Premier ministre israélien a appelé hier les Juifs européens à s'installer en Israël. Benjamin Netanyahou avait déjà lancé un appel similaire après les attaques de Paris. Enfin, un mot dans l'est de l'Ukraine pour vous dire que le cessez-le-feu semble tenir plus de 24 heures après son entrée en vigueur. Les séparatistes pro-russes et les autorités ukrainiennes assurent que l'accord est globalement respecté malgré la poursuite des bombardements autour de la ville stratégique de Debaltseve. C'est l'heure de la Minute Éco dans notre émission. Pour en parler, nous accueillons ce matin Chérubin Dorsil. Alors nous sommes encore au début de l'année 2015, une année qui sera signe de réformes agraires en Afrique du Sud.
La présidence sud-africaine a offert des détails samedi, indique l'AFP, sur le plan esquissé jeudi par le président Jacob Zuma dans son discours sur l'état de la nation. La nouvelle loi devrait être votée cette année afin, disent les responsables, de corriger les déséquilibres hérités de la colonisation et de l'apartheid. Dans ce pays où les Blancs possèdent encore la majorité des terres, d'aucuns craignent que tout effort de rectification foncière ne débouche sur des expropriations illégales, voire porteuses de violences.
Parlons de l'Angola qui a inauguré une importante voie ferrée.
Il s'agit d'un projet qui devrait marquer, comme le souligne l'agence France-Presse, le développement du trafic ferroviaire entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. D'ailleurs, les trois chefs d'État, José Eduardo dos Santos, Edgar Lungu et Joseph Kabila, était présent à la gare de Luao, dans l'est angolais, pour la cérémonie inaugurale. Enfin, la société burkinabé des fibres textiles, Sofitex, aura à sa disposition 70 millions d'euros de plus pour la campagne 2014-2015, durant laquelle plus d'un demi-million de tonnes de coton graines sont attendues, soit une hausse de 6% par rapport à l'exercice précédent. La Sofitex a signé l'accord de financement vendredi à Paris avec le groupe bancaire Société Générale et la Société Financière Internationale, filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé. Jeune Afrique rappelle que ce prêt s'ajoute à un autre financement international de 79 millions d'euros, contracté le 14 janvier auprès d'une filiale de la Banque islamique de développement, et un montant d'environ 111 millions d'euros obtenu auprès de Banque nationale au Burkina.
Merci beaucoup, c'était Chérubin Dorsil pour la Minute Éco. On passe au sport dans cette émission. Le football continental a repris ses droits ce week-end avec le premier tour aller de la Ligue des Champions. Les Guinéens de la AS Kaloum créent la sensation en s'imposant à l'extérieur 2-1 face au Sewe Sport San Pedro, triple champion de Côte d'Ivoire. Victoire facile du Raja Casablanca 4-0 contre les Diables Noirs de Brazzaville. Alali de Tripoli bat Smoua d'Égypte 1-0. Et puis le club olympique de Bamako remporte une victoire précieuse 2-0 devant le Maghreb Tétouan. Quant au stade malien, il n'a pu faire que match nul 0-0 face à la Garde nationale du Niger. Les Camerounais du Cosmos Bafia s'inclinent 1-0 en Ouganda sur la pelouse du KCCA. L'AS Pekin bat 1-0 à Dakar, l'étoile filante du Burkina Faso. Enfin, lourde défaite 3-1 en Angola des Congolais de Sanga Balende sur le terrain du Recreativo Libolo. Retour aussi de la Coupe de la Confédération ce week-end. Le club guinéen d'Oroya FC a battu l'équipe libérienne Facel FC 1-0 en match aller du tour préliminaire dimanche à Bamako. Le match a été délocalisé au Mali en raison de l'épidémie d'Ebola qui sévit en Guinée. C'est Drama Nikiema qui a donné la victoire aux Guinéens. Autre résultat, le club ghanéen de Hearts of Oak a battu l'équipe béninoise de police 1-0, c'était dimanche à Tamale. Quant à l'AS Togo Sport, elle a battu la formation congolaise du Kara 2-0 à Lomé. Autre résultat, défaite à Luanda du club burundais de Messager de Ngozi 2-0. Et puis le Renaissance de Berkane domine 2-1 les Maliens du 11 créateur. On parle cyclisme avec le départ ce lundi de la Tropicale à Missabongo au Gabon. En 10 ans, cette épreuve s'est faite un nom dans le cyclisme international, rassemblant les meilleurs amateurs africains et des professionnels venus d'Europe. Elle permet à ces derniers de parfaire leur forme avant les grands rendez-vous du calendrier. Première étape tout à l'heure, 100 km entre Bongoville et Moanda. Enfin, on va parler de NBA. Pas de match de la saison régulière la nuit dernière, mais le All-Star Game à New York. Cette rencontre opposait les meilleurs joueurs de la conférence Ouest à celle de la conférence Est. Eh bien, ce sont les joueurs de l'Ouest qui l'ont emporté 133-158. Et n'oubliez pas, évidemment, de retrouver ce soir, 19h, temps universel, le magazine Sporama.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission en ce lundi matin. Partons pour Alger, où se déroulent les pourparlers entre le gouvernement malien et les groupes rebelles. C'est ce lundi qu'on entre dans le vif du sujet après la cérémonie d'ouverture la semaine passée. À Bamako, la société civile a animé des conférences pour sensibiliser sur ces négociations et le futur accord qui devrait être signé par les différents protagonistes à Alger. Voici le reportage de notre correspondant au Mali, Kassim Traoré.
L'Alliance populaire pour l'unité nationale, Albina, pense que tout le monde doit se mettre dans la logique de la paix. Cela, quelle que soit l'issue des pourparlers. D'après certains intervenants, l'espoir est permis, même si le gros du travail revient aux communautés sur le terrain. Mohamed Ali Ouldoum Ahmed, secrétaire général de Albina.
Les signatures, c'est juste un apaisement. Hein. Mais la paix, la vraie paix, c'est ce que les communautés vont développer entre elles. En recousant le tissu, c'est clair qu'on a subi une grande déchirure, mais c'est possible. Il suffit que les gens changent de pratique, une vie est possible. Ce qui nous est arrivé n'est qu'un signal qu'on n'était pas sur une bonne voie. Si on reprend les choses, la vie est reprendre. Si on ne cesse pas, la catastrophe va venir.
Plusieurs recommandations ont été faites par les participants à la journée d'information du collectif des ressortissants des régions nord du Mali, Koren. Les participants souhaitent que ces recommandations soient prises en compte par l'équipe de médiation à Alger. Malik Aloussenou Touré, président du Koren.
La suppression et le bannissement de l'expression Azawad dans tout document d'accord. B. La mise en cohérence et l'approfondissement de la décentralisation avec les réalités spatiales, socio-économiques des terroirs ruraux. La mise en œuvre urgente d'une armée professionnelle, disciplinée, plurielle, engagée et capable d'assurer ses missions régaliennes sur l'ensemble du territoire national.
L'association des jeunes bâtisseurs a fait appel au docteur Oumar Mariko pour parler de la situation sur le terrain dans le nord du Mali, car l'accord ne pourra pas être une solution définitive. Docteur Oumar Mariko, président du parti SAD.
En dernière instance, c'est les Maliens qui doivent accepter, refaire ou défaire les accords qui ne vont pas à leur... Mais tout cela peut se passer sur la base d'abord du dialogue. Donc quand je dis les Maliens doivent se focaliser sur eux-mêmes, c'est que les Maliens doivent réussir à établir le dialogue entre eux Maliens. Pendant que nous sommes dans une situation de ni paix, ni guerre, mais de guerre.
Les Maliens sont pressés d'avoir un accord. C'est du moins l'avis de Maïga Mariam Maïga, membre du Koren.
Parce que vous avez bien vu, même le projet, il a été question de réinsertion, de réintégration au cas par cas. En français, ça veut dire ce que ça veut dire. Et quand on parle de mettre en place une commission d'enquête indépendante pour établir les faits, ça veut dire ce que ça veut dire. Je crois que les Maliens doivent comprendre que ceux qui sont là-bas aussi sont soucieux de cela parce que la plupart sont des victimes et des survivants.
Tous les Maliens suivent de près les pourparlers d'Alger qui doivent permettre l'adoption d'un document qui sera signé à Bamako comme accord de paix au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Fin du suspense en République démocratique du Congo, le calendrier électoral a été rendu public par la CENI. La présidentielle aura donc bien lieu le 27 novembre 2016. Et dans les rues de la capitale congolaise, on commente toujours cette annonce. Reportage de Thierry Kambouni de Top Congo FM, notre partenaire à Kinshasa.
1,140 milliard de dollars américains, c'est le budget dont a besoin la CENI pour organiser toutes les élections en République démocratique du Congo jusqu'en 2016. Mais la Commission électorale nationale indépendante a demandé, en publiant le jeudi 12 février dernier le tant attendu calendrier global à chacune des institutions impliquées, de jouer sa partition. Jean-Pierre Kalamba est son rapporteur.
La loi dit que nous fonctionnons avec un budget que nous avons élaboré, fait endosser au gouvernement, mais qui nous le libère sous forme de dotations mensuel. Ce n'est pas que si on a voté 1 milliard, on nous détache 1 milliard qui se trouve dans nos caisses. À chaque période, on nous les libère. Vous nous avez vu qu'après la promulgation, nous avons donné les contraintes. À ce moment-là, nous prenons et l'opinion nationale et internationale et les institutions et les parties prenantes. Chacun doit faire sa part pour que le calendrier soit effectif.
De manière globale, ce calendrier électoral a été accueilli avec prudence. Le sénateur Jacques Joly et Senge Kelly, ancien vice-président de la CENI, souligne d'ailleurs quelques incertitudes qui, selon lui, vont peser sur sa matérialisation.
C'est un calendrier qui est apparemment global, qui respecte apparemment aussi l'impératif des délais constitutionnels, mais il s'épouse le caractère de la consensualité. Deuxièmement, avoir ce calendrier qui reprend des élections complexes, telles que les élections locales, municipales, urbaines, et couple ces élections avec les élections provinciales, il s'impose des contraintes, soulignées d'ailleurs par la CENI elle-même, et qui génèrent des incertitudes, voire des inquiétudes. On aurait pu faire mieux, de manière rationnelle, en postposant par exemple les élections locales et municipales, dont nous ne maîtrisons pas tous les paramètres. On risque d'avoir un chiffre très élevé de circonscriptions, plus de 1500. Et surtout, il y a des problèmes pour ces élections, de la maîtrise du fichier électoral.
La population congolaise, elle, ne veut qu'une chose, des élections libres, démocratiques et transparentes dans le délai constitutionnel.
On a fixé la date, mais qu'on nous donne une élection purement transparente, démocratique.
Moi, je suis personnellement content déjà de voir qu'il y a un calendrier global. Nous voulons seulement que l'on ne parle plus demain encore de problèmes de soi-disant financement et tout.
Qu'ils puissent vraiment respecter ces calendriers. Nous n'accepterons jamais qu'il puisse y avoir encore report des élections. Ça, vraiment, on ne va pas accepter parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui sont mortes à cause de ça.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Télé Mwangaza, à Lubumbashi, province du Katanga.
Au Burundi, le procureur général annonce la création d'une commission d'enquête judiciaire chargée de faire la lumière sur les allégations de Human Rights Watch. L'ONG accuse l'armée et la police burundaise d'avoir commis au moins 47 exécutions extrajudiciaires entre le 30 décembre et le 3 janvier dernier. Les jeunesses du parti au pouvoir, les Imbonerakure, sont aussi mises en cause. Au-delà de cette affaire, c'est le contexte de violence globale dans le pays qui inquiète, et ce, à quelques mois seulement des élections. Pour une réaction, j'ai joint Justine Kurunziza, présidente de la COSOM, la coalition de la société civile pour le monitoring électoral.
Ça fait longtemps, il n'y a pas eu d'amélioration et maintenant ça s'aggrave de plus en plus. Parce que personnellement, je trouve que c'est lié au processus électoral en cours. Parce qu'il y a de plus en plus de rétrécissement de l'espace pour les opposants et surtout et aussi pour la société civile. Donc il y a une tendance de, bon, je dirais de faire taire les gens qui ne parlent pas du même langage que le pouvoir en place.
Quelle est la situation actuellement ?
On se rend compte que les gens des partis politiques, surtout les partis qui sont dynamiques sur terrain, leurs membres sont de plus en plus chargés de dossiers juridiques, sont emprisonnés. Donc on trouve que c'est surtout les membres dynamiques qui pourraient peut-être participer activement dans les campagnes. Et c'est ça qui nous fait peur parce que finalement, c'est l'intimidation totale.
Est-ce que selon vous, les élections qui sont programmées pour le mois de mai et le mois de juin de cette année peuvent se dérouler actuellement dans de bonnes conditions ?
De la part de toutes les parties prenantes. Là, je veux dire le gouvernement, la CENI, les partis de l'opposition. Donc, je pense que les élections peuvent se dérouler dans un climat de transparence et peuvent être crédibles. Mais il faut vraiment que les parties prenantes aient une bonne volonté. Parce que dernièrement, on était dans une réunion d'évaluation, une réunion de deux jours. Et ils échangeaient, vraiment, on voyait que les discussions allaient très bien. Et ils ont eu un consensus sur des corrections à faire et sur la suite du processus. Donc je pense que s'ils continuent sur la bonne voie, sur la voie sur laquelle ils ont commencé, les élections peuvent bien se dérouler.
Quel souvenir gardez-vous de la guerre civile qui a duré de 1993 à 2003 dans votre pays, le Burundi ?
Un souvenir très amer. Là, il faut dire vraiment, je garde un souvenir très amer. Et je pense que tous les Burundais sont de même avis que moi parce que chacun de nous a perdu un parent, un enfant, un frère, un cousin ou bien un voisin. Donc personne n'aimerait qu'il y ait vraiment encore une guerre au Burundi.
Justine Kurunziza de la COSOM, elle était jointe à Bujumbura.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
En Côte d'Ivoire, triste réalité pour les victimes du Probo Koala. Elles ont encore manifesté à Abidjan car elles ne sont pas satisfaites de la justice ivoirienne qui gère l'indemnisation des déchets toxiques. Germain Dri, correspondant dans la capitale économique ivoirienne, les a rencontrées.
9 ans après le déchargement en plein Abidjan des déchets dangereux du cargo Probokwala, des milliers de victimes n'ont pas encore été indemnisées et réclament justice. Une situation que le président du Réseau national pour la défense des droits des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire comprend difficilement. Charles Kofi Anon.
On ne peut pas comprendre qu'une procédure régulière a été initiée devant les juridictions compétentes depuis 2011 et que cette procédure aujourd'hui aboutisse à un jugement au terme duquel des individus ont été condamnés. Curieusement, ces individus bénéficient de leur liberté et continuent d'escroquer les victimes. On connaît des gens à 20 ans d'emprisonnement ferme sans décerner de mandat de dépôt. On n'évoque pas les intérêts civils, c'est-à-dire l'indemnisation même des victimes des déchets toxiques au motif que le plaignant principal aurait été indemnisé à hauteur de 5 millions de francs CFA alors que l'indemnisation individuelle des victimes est de 727 500 francs.
Les victimes des déchets toxiques trouvent cette situation lamentable. Boutibi.
C'est vraiment déplorable pour un pays, vraiment des gens qui ont été condamnés à 20 ans sans mandat de dépôt. Et vraiment nous vivons un monde à l'envers. Nous l'avons gagné, ils ont été condamnés. C'est déjà bon. Et nous disons à la justice d'aller encore plus loin, de les arrêter et que justice soit faite. Tant que nous n'aurons rien, nous serons toujours sur le terrain. Nous allons tout manifester.
Kindo Fatmata, nous souffrons parce qu'on attend l'argent là pour nous soigner. Il y a des victimes qui meurent. Nous sommes malades, mais on attend toujours notre argent là.
Nguesson Cécile, est-ce que nous constatons depuis cette époque que jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait? Au mieux même, nous constatons que c'est le pouvoir en place actuellement qui nous enfonce plus.
À ce jour, 19 000 victimes sont en attente pour être indemnisées pour une somme évaluée à 14 milliards de francs CFA. Aussi, les structures de traitement promises sont restées sans suite. Charles Kofi Anon.
C'est un problème de santé publique que le déversement des déchets toxiques a causé. Le gouvernement avait promis de construire un centre de santé spécialisé pour traiter gracieusement toutes les victimes des déchets toxiques, ce qui n'a pas été fait. Le gouvernement avait promis également une usine de traitement de ces déchets, ce qui n'a pas été fait. Donc rien n'a été fait. Et est-ce que les vraies victimes ont été indemnisées? Si c'était le cas, nous ne serions pas partis devant les juridictions internationales pour initier cette procédure, n'est-ce pas donc, au terme de laquelle des détournements encore criards ont été faits par des individus et même des politico-judiciaires.
Quant au porte-parole du gouvernement, il estime que ce dossier est du ressort de la justice. Bruno Koné.
La justice est indépendante, mais s'il y a des personnes qui sont fautives, des personnes qui ont commis des fautes en amont de cette opération, pendant cette opération ou après cette opération, mais ces personnes, elles doivent être sanctionnés conformément à nos lois.
Germain Dri, Abidjan, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Not just about this place. You really think I could be replaced? Nah, I come from outer space. And I'm a classy girl, I'ma hold it up. You full of something, but it ain't love. And what we got is straight overdue. Go find somebody new.
You can buy me diamond earrings and na-na-na-na-na-na-na-na-na. But I smell her on your collar, so ba-ba-ba-ba-ba-ba. I know you're lying, cause your lips are moving. Tell me, do you think I'm dumb? I might be young, but I ain't stupid. Talking round in circles with your tongue. I gave you bass, you gave me sweetheart. Saying I'm your number one. But I know you're lying, cause your lips are moving. Baby, don't you know I'm numb?
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, Nicolas Pineau à la présentation Excellente journée à tous. Avant de se quitter, saluons Lydia Javon de Lomé au Togo et Boukher Toudron à Kaï, c'est au Mali. Comme eux, retrouvez-nous sur Facebook ou notre site internet voafrique.com.